Chers amis, nous allons à présent parler des possibilités de traitement des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des néoplasies ou dysplasies cervicales intraépithéliales. Tout au long de cette conférence, je m'intéresserai principalement au contexte des pays en développement. J'insisterai sur le fait que la prise en charge de la néoplasie cervicale intraépithéliale implique un certain degré de surtraitement qui est inévitable dans la pratique, étant donné que dans de nombreux pays en développement, l'approche adoptée est celle de la visite unique, consistant à dépister et traiter, ou dépister, poser le diagnostic et traiter le même jour. Il se peut donc que vous traitiez des patients qui ne présentent pas de lésions. En utilisant excessivement ce type de traitement, vous pouvez mettre en place des approches de visite unique et renforcer le lien entre le dépistage, le diagnostic et le traitement, ou entre le dépistage et le traitement. Si on ne les traite pas, les lésions ne peuvent être guéries et les cancers du col de l'utérus ne peuvent être prévenus. Les réflexions qui suivent s'appliqueront principalement au contexte des régions à revenus faibles et moyens. Vous connaissez tous l'histoire naturelle des précancers cervicaux. L'infection persistante par un des 15 types de virus du papillome humain est une cause nécessaire du cancer du col de l'utérus. En réalité, c'est une infection omniprésente. Toutes les femmes sont exposées à une infection VPH au cours de leur vie et 90% sont infectées. Mais heureusement, pour beaucoup d'entre elles, l'infection disparaît d'elle-même. À tout instant donné, 5 à 30 ou 40% des femmes sexuellement exposées sont positives à l'infection au VPH. En définitive, l'infection par le VPH disparaît en 6 mois chez la moitié d'entre elles. Au bout de 2 ans, elle a disparu chez 80% des femmes infectées. Dans 10% des cas environ, l'infection persiste au-delà de 2 ou 3 ans. Ce sont les femmes chez lesquelles une cellule épithéliale cervicale métaplasique peut potentiellement se transformer en cellule néoplasique. Nous avons précédemment abordé les différents stades de la carcinogénèse cervicale et nous avons parlé des signes 1, 2 et 3. En réalité, plus de 80% des signes 1 régressent vers la normale ou n'évoluent pas en signe 2. 10 à 20% des signes 2 évoluent en signe 3. Environ 30% peuvent rester des signes 2 persistantes et 50% régressent vers des stades plus bas ou reviennent à la normale. 50% des signes 3 évoluent vers un cancer invasif en 10 ou 15 ans si elles ne sont pas traitées, mais environ 25% peuvent persister et 25% peuvent régresser. En revanche, les cancers ne régressent jamais, ils ne reviennent jamais à la normale. Ils évoluent systématiquement en grade plus élevé et conduisent au décès. Ce qu'il faut retenir est donc que les signes de bas grade ont une plus forte tendance à régresser, alors que les signes de haut grade tels que les signes 3 ont tendance à évoluer en cancer invasif. En fait, il semble que si l'on ne traitait pas 100 patientes présentant une signe 1, en particulier des patientes de plus de 30 ans, environ 10 d'entre elles présenteraient un cancer invasif au bout de 20 ans. Si l'on ne traitait pas 100 femmes de plus de 30 ans présentant une signe 2, environ 20 d'entre elles présenteraient un cancer invasif au bout de 15 ans. Si l'on ne traitait pas 100 femmes présentant une signe 3, environ 50 d'entre elles développeraient un cancer du col en 15 à 20 ans. Cela signifie que pour 2 patientes présentant une signe 3 que l'on traite, on sauve une femme du cancer. Pour 10 patientes présentant une signe 2 que l'on traite, on sauve 2 femmes du cancer. Et pour 20 patientes présentant une signe 1 que l'on traite, une femme peut être sauvée du cancer. Les principes fondamentaux à prendre en compte dans le traitement des signes sont: d'une part, la totalité de la zone de remaniement doit être traitée. D'autre part, la profondeur du traitement dans l'épithélium cervical doit être d'au moins 7 mm. Et enfin, les patientes traitées doivent être suivies avant de vérifier si la néoplasie a disparu ou s'il y a une récurrence. Si vous vous souvenez de nos conférences précédentes, nous avons tous mis l'accent sur le fait que les néoplasies cervicales apparaissent dans la zone de remaniement, qui est la zone du col de l'utérus située entre la jonction pavimento-cylindrique originelle et la nouvelle jonction pavimento-cylindrique. D'un point de vue clinique, c'est la partie du col qui entoure l'orifice. C'est pour moi le moyen le plus simple d'identifier la zone de remaniement. Nous avons également mentionné que les cryptes de l'épithélium cylindrique infiltrent le stroma et que chez 95% des femmes, la profondeur stromale d'infiltration des cryptes ou des néoplasies intraépithéliales ne dépasse pas 4 mm. Cela signifie qu'une profondeur de traitement de l'épithélium cervical d'au moins 7 mm suffit à éliminer la plupart des néoplasies cervicales intraépithéliales. Le troisième principe vient du fait que les femmes atteintes de néoplasie cervicale intraépithéliale présentent des risques plus importants de développer de nouvelles lésions par rapport aux autres femmes. Il faut donc les garder sous surveillance. La fréquence des visites dépendra des ressources. Dans les pays développés, elles peuvent avoir lieu tous les 6 mois. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe dans les pays en développement. Dans ces pays, suivre une femme un an après son traitement et s'assurer qu'il n'y ait aucune lésion résiduelle est suffisant dans la plupart des cas. Quelles sont les méthodes de traitement des signes? Elles peuvent être divisées en 2 catégories, le traitement par ablation ou destruction et le traitement par exérèse. La cryothérapie est une des techniques de traitement par destruction. Elle repose sur l'utilisation d'un gaz réfrigérant tel que le dioxyde de carbone ou l'oxyde d'azote pour refroidir la sonde métallique à moins 20 degrés Celsius pour le premier et moins 60 degrés Celsius pour le second. On utilise alors cette sonde refroidie pour abaisser très rapidement la température du col à moins de moins 20 degrés Celsius de façon à ce que l'eau intracellulaire cristallise et que les cellules soient détruites. La seconde technique de destruction est l'électrocoagulation, qui consiste à utiliser une électrode électriquement active pour coaguler l'épithélium cervical afin de détruire la lésion jusqu'à une profondeur de 7 mm. La coagulation à froid, qui devrait d'ailleurs plutôt être appelée coagulation à chaud étant donné qu'elle fait appel à la chaleur et non au froid pour coaguler l'épithélium cervical, consiste à appliquer sur l'épithélium cervical une électrode métallique préalablement chauffée à 100 degrés, voire 105 degrés, détruisant ainsi les cellules cervicales. La quatrième technique de destruction est la vaporisation au laser. Un rayon laser est utilisé pour détruire les cellules cervicales. Il faut savoir que tous les traitements par ablation ou destruction peuvent être pratiqués sur le col de l'utérus sans anesthésie locale car l'épithélium de l'exocol ne possède pas de fibres sensibles à la douleur. L'exocol n'a pas non plus de terminaison nerveuse, si bien qu'il n'est sensible ni au toucher ni à la douleur. C'est pourquoi les techniques de destruction telles que la cryothérapie ou la coagulation à froid ne nécessitent pas d'anesthésie locale. L'anesthésie locale est nécessaire dès que le traitement vise le stroma ou l'endocol, qui est parcouru par de nombreuses terminaisons nerveuses, mais pas lorsqu'il vise l'exocol. Le traitement par destruction ne s'applique que dans les cas où les lésions concernées sont entièrement situées dans l'exocol et ne touchent pas le canal. Si la lésion touche le canal endocervical ou le vagin, le traitement par destruction n'est pas approprié. De la même façon, ce type de traitement est réservé aux petites lésions, c'est-à-dire à celles qui affectent moins de 3/4 du col. Lorsque la lésion touche plus de 3/4 du col, le traitement par destruction a un taux d'échec plus élevé. Cependant, en Afrique, dans de nombreux centres ne possédant pas les infrastructures nécessaires au traitement par exérèse, je conseille d'opter pour un traitement par destruction, même pour les lésions situées sur tout le col, à condition qu'elles n'impliquent pas le canal. Comment s'assurer que la lésion ne touche pas le canal? Vous devez être en mesure de voir l'intégralité de la lésion sur l'exocol et la jonction pavimento-cylindrique. La lésion ne doit pas s'étendre au canal. Si l'examen clinique soulève une suspicion de cancer invasif, on ne doit en aucun cas avoir recours au traitement par destruction, car les cancers invasifs touchent le col plus profondément, si bien que de telles lésions seraient sous-traitées. La destruction n'est donc pas un traitement suffisant dans les cas de cancer invasif. La seconde catégorie de traitement est appelée traitement par exérèse, car elle implique l'exérèse du col de l'utérus. Quelles en sont les techniques? La première, la plus utilisée, est la résection à lance diathermique, RAD, également appelée excision à lance large de la zone de remaniement, LLETZ. Elle consiste à exciser la totalité de la zone de remaniement sous anesthésie locale à l'aide d'une électrode active. La seconde technique est l'exérèse au laser. À l'aide d'un rayon laser, vous excisez l'épithélium cervical, la zone de remaniement. La troisième est la conisation à froid. À l'aide d'un bistouri, vous excisez entièrement le col. L'excision est pratiquée en suivant la forme d'un cône, généralement à 1,5 ou 2 cm de profondeur. Enfin, le retrait de la totalité de l'utérus, appelé hystérectomie, est rarement pratiqué dans la prise en charge des pré-cancers cervicaux. Plus de 80 à 90% des traitements par exérèse sont des RAD. La conisation à froid est généralement réservée aux lésions très étendues dès qu'il y a une suspicion de cancer invasif ou de néoplasie glandulaire telle que l'adénocarcinome in situ. Les traitements par exérèse s'appliquent en règle générale à des signes importantes touchant plus des trois quarts du col ou s'étendant au canal ou à des zones de remaniement atypiques sur lesquelles la jonction pavimento-cylindrique n'est pas entièrement visible. Les exérèses sont donc généralement pratiquées lorsqu'il y a une suspicion de cancer invasif sur la lésion. Ce sont les indications habituelles du traitement par exérèse. Il existe trois types de zones de remaniement. La zone de remaniement de type 1 est entièrement visible. La totalité de la jonction pavimento-cylindrique est identifiable. Les lésions qui apparaissent sur une zone de remaniement de type 1 n'affectent donc que l'exocol et sont entièrement visibles. Le traitement par destruction est approprié pour les lésions apparaissant sur ce type de zone de remaniement. La zone de remaniement de type 2 n'est que partiellement visible. La jonction pavimento-cylindrique n'est pas entièrement visible, mais une manipulation du canal endocervical à l'aide d'un écouvillon de coton ou d'un spéculum endocervical permet d'en visualiser la totalité. La zone de remaniement de type 3 n'est que partiellement visible, même après manipulation du canal endocervical. Les zones de remaniement de type 2 et 3 présentant une cine nécessiteront un traitement par exérèse, tandis que les zones de type 1 peuvent être traitées aussi bien par destruction que par exérèse. Quelles sont les indications du traitement par destruction telles que la cryothérapie ou la coagulation à froid ? Je voudrais insister sur le fait que pour les pays en développement, la vaporisation au laser est très coûteuse à cause du prix de l'équipement. C'est pourquoi nous ne la prendrons pas en compte. Nous considérerons uniquement la cryothérapie, la coagulation à froid et l'électrocoagulation comme traitement par destruction possible. Parmi ces options, je recommanderais soit la cryothérapie, si l'approvisionnement en gaz peut être assuré, soit la coagulation à froid, car ce sont les traitements les plus accessibles. Alors, quelles sont les indications pour le traitement par destruction ? Ces 5 critères devraient tous être remplis. La lésion doit se situer sur une zone de remaniement de type 1 et ne doit pas s'étendre sur plus de 75%, c'est-à-dire 3 ou moins de 3 quarts du col. Il ne doit pas y avoir d'extension dans le canal, ni de signe d'invasivité. Si l'on dispose de services de pathologie, on peut diriger une biopsie avant le traitement par destruction. Après avoir procédé au traitement, on peut donc savoir ce que l'on a traité. Comme je l'ai dit précédemment, le traitement par exérèse est indiqué lorsqu'il s'agit d'une vaste zone de remaniement de type 1, que plus de 3 quarts du col sont touchés, ou que la lésion s'étend au canal endocervical, ou qu'il y a suspicion de lésions glandulaires telles que l'adénocarcinome in situ. En outre, dès qu'il y a une suspicion de cancer invasif, on a recours au traitement par exérèse. L'approche observée puis traitée, en anglais « see and treat », dans la prise en charge des signes. On utilise généralement une résection à lance diathermique, RAD, dans la technique observée puis traitée. Chez les femmes que l'on a dépistées, le diagnostic et le traitement de la maladie cervicale précancéreuse sont effectués lors d'une visite unique, éliminant ainsi le besoin d'une seconde visite pour les traiter. Cela permet non seulement un gain de temps, mais aussi d'assurer le traitement des femmes positives au dépistage. On peut également utiliser la cryothérapie ou la coagulation à froid dans l'approche observée puis traitée. Les principes de cette stratégie peuvent être adaptés pour fournir une efficacité maximale du diagnostic et du traitement par cryothérapie ou coagulation à froid des femmes positives au dépistage en une visite unique. Dans une approche de visite unique, testée puis traitée, en anglais test and treat, on peut associer une IVA ou un test VPH à une cryothérapie ou une coagulation à froid. Les femmes positives à l'IVA ou au test VPH, ne faisant pas l'objet d'une suspicion de cancer invasif, sont traitées par cryothérapie ou coagulation à froid sans colposcopie ni biopsie préalable. C'est en général l'approche adoptée dans les pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, qui ne sont pas équipés pour la colposcopie ou la biopsie. L'innocuité, l'acceptabilité et l'efficacité de telles approches ont déjà été démontrées en Thaïlande et plusieurs autres pays en développement. L'approche de la visite unique testée puis traitée, combinant une IVA et une cryothérapie ou une coagulation à froid, est souvent adoptée dans les pays de l'Afrique subsaharienne ou dans des milieux où l'on ne dispose pas de services de biopsie ou d'histopathologie et dans lesquels il est impossible d'analyser des échantillons de biopsie. Dans de tels cas, les femmes positives à l'IVA chez qui l'on ne soupçonne pas de cancer invasif sont traitées par cryothérapie ou coagulation à froid sans colposcopie ou biopsie préalable. Comme je l'ai déjà dit, cette approche est de plus en plus pratiquée dans plusieurs pays d'Afrique et s'est révélée acceptable, sûre et efficace. Je vais à présent vous présenter la cryothérapie en détail. Nous aborderons la coagulation à froid lors d'une autre présentation. La cryothérapie est une technique qui consiste à congeler rapidement le col de l'utérus à moins 20 degrés Celsius afin de cristalliser l'eau intracellulaire des cellules cervicales pour les détruire. C'est une technique sûre qui ne présente presque pas de complications. Elle agit par cristallisation de l'eau intracellulaire qui perce le cytoplasme et détruit la cellule. En réduisant la température très rapidement, la température au centre de la boule de glace dans le tissu atteint moins 89 degrés Celsius avec l'oxyde d'azote et moins 68 degrés Celsius avec le dioxyde de carbone. La température au bord de la boule de glace atteint environ moins 20 degrés Celsius. Les indications pour la cryothérapie sont celles du traitement par destruction que j'ai mentionné précédemment. Elle est adaptée à tout type de lésion, au signe 1, signe 2 ou signe 3, aux lésions acidophiles ou jaune moutarde. La lésion doit être couverte correctement par la sonde cryogénique ou ne pas s'étendre à plus de 2 mm au-delà du diamètre de la sonde. La lésion ne doit pas être un cancer. Elle doit être entièrement située sur l'exocol. Elle ne doit pas s'étendre sur le vagin ni dans l'endocol. Elle ne doit pas toucher moins de 3 quarts de la zone de remaniement du col. Il ne doit pas y avoir d'antécédents de grossesse ni de saignement menstruel. Toutes ces conditions doivent être réunies pour pratiquer la cryothérapie. Les instruments et équipements nécessaires comprennent une table d'examen, une lampe halogène orientable, un spéculum bivalve pour exposer le col, un plateau d'instruments et un appareil cryogénique. Avant de pratiquer la cryothérapie, vous devez toujours vérifier les antécédents de réaction anaphylactique à un médicament, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale, de troubles hémostatiques, de maladies inflammatoires pelviennes à répétition. Vous devez également vous assurer qu'il n'y a pas eu de menstruation ou de grossesse récente. L'utilisation de l'appareil de cryothérapie nécessite une sonde cryogénique. Nous conseillons de se servir d'une sonde cryogénique standard sans extension endocervicale. L'équipement de cryothérapie est constitué d'un pistolet cryogénique qui est utilisé pour réguler la circulation du gaz réfrigérant vers la sonde afin que cette dernière soit amenée à des températures négatives. Cette sonde est ensuite appliquée sur le col et l'équipement cryogénique doit posséder un manomètre qui indique la pression à laquelle le gaz sort de la bouteille. En effet, ce dispositif de contrôle indique une zone verte où l'aiguille doit se situer quand la pression de sortie du gaz est appropriée pour congeler la sonde. Attention, si la pression est très élevée, il y a un risque d'explosion. Elle doit dans ce cas être diminuée en laissant du gaz s'échapper jusqu'à ce que l'aiguille atteigne la zone verte du manomètre. Cela ne survient habituellement pas. Lorsque vous connectez l'équipement cryogénique à la bouteille d'oxyde d'azote ou de dioxyde de carbone, le manomètre indique généralement la zone verte sans danger. En ce qui concerne le procédé de cryothérapie, la patiente est en position gynécologique. On lui explique la procédure, on la rassure. Soyez agréable avec elle, de façon à ce qu'elle se détende totalement. Insérez le spéculum, exposez le col, nettoyez les sécrétions, appliquez l'acide acétique et délimitez la lésion, puis appliquez la solution de Lugol, délimitez la lésion et réglez le chronomètre. Nettoyez l'embout de la sonde cryogénique avec du sérum physiologique. Raccordez la sonde au réservoir à gaz. Préparez tout le matériel et lorsque vous êtes prêt, déclenchez le chronomètre, appliquez doucement l'embout de la sonde sur le col et commencez la congélation. Congelez pendant 3 minutes, puis cessez la congélation. Attendez 5 minutes avant que la sonde décongèle, puis congelez à nouveau pendant 3 minutes. Cette technique est appelée cycle double de congélation-décongélation, c'est-à-dire 3 minutes de congélation, 5 minutes de décongélation et 3 minutes de congélation. Si la température du tissu est réduite à moins 60 degrés Celsius pendant 2 minutes, selon des principes physiques, le tissu ne conduit plus la chaleur. C'est pourquoi il faut cesser la congélation après 3 minutes, permettant à la température du tissu de remonter pour que lorsque l'on renouvellera la congélation, la chaleur soit toujours conduite. Quelle est l'utilité d'une technique de cycle double ? S'assurer de la destruction d'au moins 7 mm du tissu cervical. Une fois le cycle double de congélation-décongélation effectué, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu 3 minutes de congélation, 5 minutes d'arrêt pour que la sonde décongèle et à nouveau 3 minutes de congélation, cessez la congélation et attendez que la sonde décongèle, puis retirez-la avec de légers mouvements de rotation sans tirer brusquement. Il convient ensuite d'examiner le col pour chercher les saignements, de retirer le spéculum, de rassurer la patiente et de lui expliquer les modalités de suivi, c'est-à-dire éviter les douches vaginales ou les tampons, ainsi que les rapports sexuels pendant 4 semaines. Si l'abstinence ne peut être observée, recommandez l'utilisation de préservatifs. Malgré cela, il existe de nombreux milieux où les patientes ont des rapports sexuels non protégés et nous n'avons pas constaté trop de complications. Il faut prévenir la patiente que des crampes modérées et des pertes liquides claires pourront survenir jusqu'à 4 semaines. Nous préférons administrer systématiquement des antibiotiques en prévention, soit 400 mg de métronidazole, soit 100 mg de doxycycline 2 fois par jour pendant 5 jours. L'utilité de ce traitement prophylactique n'a pas été prouvée, mais il est préférable de le suivre dans les pays en développement afin de prévenir d'éventuelles infections. Nous ne savons pas si cela en vaut vraiment la peine, mais nous le pratiquons. Avant de traiter une patiente par cryothérapie, le prestataire de soins devrait s'entraîner à utiliser l'équipement sur des modèles in vitro, par exemple avec une pomme et un coton imbibé d'eau, afin d'apprendre comment congeler, décongeler, etc. Sur cette photo prise en Thaïlande lors d'un cours, nous donnons une leçon in vitro à nos étudiants qui reçoivent une formation sur la cryothérapie avant de pratiquer le véritable traitement in vivo. Nous pouvons voir ici la position de la sonde cryogénique sur le col permettant d'établir un bon contact avec l'épithélium cervical de façon à congeler la totalité de la zone de remaniement. Ici, nous pouvons voir un col présentant une lésion et observer la façon dont la sonde recouvre la totalité de la zone de remaniement. Sur le col traité par cryothérapie, on constate une boule de glace autour de la sonde qui disparaît après arrêt de la congélation du tissu lorsque la sonde décongèle également. Cette dernière est ensuite retirée. Ceci représente l'aspect du col immédiatement après la congélation, après 2 semaines, après 3 mois et après 1 an. La plaie cicatrise généralement dans les 3 semaines suivant le traitement. La cryothérapie donne lieu à très peu de complications et effets secondaires. Certaines patientes peuvent se plaindre de douleurs ou crampes pelviennes ou vaginales. Elles peuvent également se plaindre de sensations de congélation au niveau pelvien et une perte de connaissance peut survenir en de rares occasions, en particulier si vous congelez l'endocol qui possède de nombreuses fibres sympathiques et parasympathiques. Il ne faut donc en aucun cas utiliser une sonde cryogénique pourvue d'une extension endocervicale. De très rares cas de choc anaphylactique ont été reportés. En réalité, cela n'a été décrit qu'à 3 reprises dans la littérature. Nous n'avons personnellement constaté que 2 crises d'anaphylaxie pour plus de 10 000 traitements. Il est très courant que des pertes vaginales, bien souvent abondantes et liquides, surviennent pendant 2 ou 3 semaines. On constate parfois de légers saignements ou taches durant la première semaine, en particulier si la cryothérapie a été pratiquée après une biopsie dirigée. De plus, la zone de cicatrisation peut s'infecter, mais nous n'avons que très rarement observé de telles complications. À vrai dire, sur plus de 10 000 traitements au total, nous avons observé ces complications chez moins de 1% des femmes. Il convient cependant de prévenir la patiente que si le moindre de ces symptômes survient, elle doit immédiatement le signaler à son médecin ou au prestataire de soins. Une fièvre pendant plus de 2 jours, de fortes douleurs ou crampes pelviennes, des saignements juste après le traitement, plus abondants que pendant les jours les plus abondants des règles, des saignements avec caillots, des pertes excessives nauséabondes sont autant de symptômes pouvant traduire un problème qui doit donc être examiné correctement et évité. Comme je l'ai dit précédemment, les précautions à prendre suite à la cryothérapie sont d'éviter les douches vaginales, les tampons, les rapports sexuels pendant 4 semaines et utiliser des préservatifs le cas échéant. Les activités physiques habituelles peuvent être reprises juste après le traitement. C'est une information très importante pour les patientes. La cryothérapie ne nécessite pas de prendre du repos. Après 30 minutes, la patiente est en mesure de marcher, de rentrer chez elle et de recommencer son travail. Elle n'a pas besoin d'arrêter de travailler, de cesser la pratique de ses activités physiques, etc. Il s'agit d'un traitement en ambulatoire. Ne recommandez donc pas 1 ou 2 semaines de repos après la cryothérapie. Les séquelles à long terme de la cryothérapie sont très rares. On a reporté quelques rares cas de sténose fonctionnelle. Les cas de maladies inflammatoires pelviennes sont également très rares. La cryothérapie ne donne lieu à aucun effet secondaire sur la fertilité et les grossesses. Au contraire, nous avons constaté que suite à la cryothérapie, les femmes ont tendance à concevoir car leur canal est exposé. En ce qui concerne le suivi, on peut donner un rendez-vous après 6 à 8 semaines pour vérifier la guérison. Cependant, nous avons à présent renoncé à cette étape car nous savons que la plaie cicatrise en 3 semaines. En revanche, il est recommandé de systématiquement donner un rendez-vous 1 an après le traitement, de façon à observer le col, voir si la lésion a disparu et vérifier qu'il n'y ait pas de maladie persistante ou récurrente. Sinon, il faudra à nouveau soumettre la patiente à un traitement. Le nettoyage, la décontamination et la désinfection de l'équipement cryogénique après chaque traitement sont primordiaux. Il convient de décontaminer l'appareil cryogénique, le tuyau et le régulateur en les essuyant avec de l'éthanol à 70%. Lavez la sonde sommairement à l'eau et au savon, puis séchez-la. Vous pouvez pratiquer une désinfection de haut niveau en plongeant la sonde dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes ou dans du glutaraldéhyde à 4%. Si l'on ne dispose pas de ces moyens de désinfection de haut niveau, on peut plonger la sonde dans une solution d'éthanol à 70 ou 90% pendant 20 minutes. En pratique, on lave bien la sonde à l'eau, on la sèche, on l'essuie avec un coton sec, puis avec un coton imbibé d'éthanol à 70% et on la congèle en la raccordant à l'équipement cryogénique pendant 2 à 3 minutes. Elle est alors prête à l'emploi. Il s'agit là du mode de désinfection pratique que je recommande. Nous allons à présent aborder le traitement par exérèse. Un traitement par exérèse est obligatoire si la cine a déjà été soumise à un traitement qui a échoué et laissé une lésion importante sur le col, ou si la jonction pavimento-cylindrique n'est pas visible, empêchant ainsi d'écarter l'hypothèse d'une extension au canal endocervical, ou encore lorsque vous êtes dans l'impossibilité d'obtenir une biopsie dirigée de la zone la plus atteinte et à partir du moment où vous soupçonnez une invasion ou des lésions glandulaires. Nous traiterons essentiellement de la résection à lance diathermique, technique qui consiste à utiliser un courant électrique HF, radiofréquence, pour inciser un tissu et pratiquer l'hémostase. On a recours à un appareil électrochirurgical qui génère le courant électrique et à une électrode de retour au patient afin d'assurer le passage du courant électrique entre le patient et la machine mise à la terre, ainsi qu'à une électrode métallique en tungstène qui peut être chauffée afin de réaliser la coupe du tissu cervical. Les indications de la rate comprennent la présence de néoplasies cervicales intraépithéliales confirmées par histologie, de lésions SINE s'étendant dans le canal endocervical à moins de 1 cm, également confirmées par histologie, de lésions SINE sur l'exocol ne pouvant pas être totalement recouvertes par la sonde cryogénique et aussi confirmées par histologie, l'absence de signes de cancer invasif et de grossesse. La confirmation histologique de ces indications n'est évidemment réalisable que dans les pays équipés pour l'histopathologie, ce qui n'est pas le cas de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. La RAD est indiquée dès qu'il y a une suspicion de lésion glandulaire ou de cancer à l'examen clinique, ou que la lésion est très importante, qu'elle s'étend sur plus de 3/4 du col ou qu'elle atteint le canal endocervical. Les critères d'éligibilité pour la RAD. La présence d'une SINE confirmée par biopsie ou une suspicion de SINE, ou encore, en Afrique, une lésion importante observée par IVA ou IVL dont la profondeur ne dépasse pas 1,6 cm. Si possible, il faut traiter l'infection avant de pratiquer la RAD. Mais dans la plupart des pays en développement, on ne peut pas demander de multiples visites et on choisit donc de traiter directement la patiente à qui l'on administre des antibiotiques en prévention. La technique de la RAD consiste tout d'abord à préparer la patiente, lui demander son consentement éclairé, la placer en position gynécologique, lui expliquer le traitement et la détendre. On administre ensuite un anesthésique local pour rendre le col indolore. On utilise une anse de taille appropriée, petite, moyenne ou grande. L'incision est généralement pratiquée avec une anse petite ou moyenne. On choisit les paramètres diathermiques qui conviennent et l'on procède toujours à une simulation de coupe avant de la pratiquer sur la patiente. Les étapes de la RAD incluent la préparation de l'anse, la mise en place de l'anse sur le col, l'activation du courant pour l'excision du col, le retrait de l'anse du col. La coupe se fait toujours de droite à gauche, de gauche à droite ou de bas en haut, mais jamais de haut en bas. Il convient de bien observer le col et vérifier la technique de façon systématique avant et pendant la RAD afin de ne pas inciser accidentellement le vagin ou les cul-de-sac vaginaux. L'un des scénarios opératoires de la RAD est l'excision en un seul passage lorsque la lésion exocervicale peut être entièrement retirée par un seul passage. Cela concerne généralement les zones de remaniement de type 1. Si la lésion est très importante et que l'on ne peut pas la retirer en une seule coupe de lance, il faut la retirer par plusieurs passages. Si la lésion s'étend sur plus de 1 cm dans le canal, il convient de commencer par l'excision de l'exocol, puis d'effectuer un deuxième passage sur l'endocol en suivant une technique en deux temps appelée technique du chapeau de cow-boy. Il est également possible de procéder à l'excision cylindrique de la totalité de la lésion endocervicale à l'aide d'une électrode à aiguille longue. C'est une des techniques que nous utilisons. Voici un schéma d'une excision en un seul passage. Ici, l'anesthésie est réalisée à 12, 3, 6 et 9 heures, mais on optera plutôt pour une approche diagonale. On injecte l'anesthésique locale à 2, 5, 8 et 11 heures, afin d'éviter les zones comportant de nombreux vaisseaux sanguins, les artères à 3 et 9 heures. On infiltre la sous-muqueuse pour anesthésier le col. On procède ensuite à l'excision de la lésion latéralement, ici de gauche à droite. La totalité de la zone de remaniement est retirée en un seul passage. Après l'excision, on retire les tissus et on procède à la fulguration des bords de la plaie à l'aide d'une électrode à boule de 5 mm pour pratiquer l'hémostase et préserver la jonction pavimento-cylindrique sur la partie visible de l'exocol. Voici un schéma d'une excision en plusieurs passages grâce à laquelle on retire une grande partie de l'exocol en un premier passage, puis la lésion située sur les lèvres inférieures et supérieures, de telle sorte que l'excision est effectuée en 3 passages. Voici un schéma de l'excision en chapeau de cow-boy. On incise tout d'abord l'exocol, puis l'endocol, si bien que l'on retire une quantité importante de tissu. Les circonstances particulières. Si la lésion s'étend au vagin, employez une électrode à boule pour fulgurer la portion vaginale périphérique de la lésion et utilisez la rade pour exciser la partie centrale de la lésion. Il est important de prendre beaucoup de précautions au cas où le col aurait déjà subi un traitement qui l'aurait déformé. Il faut alors viser et diriger correctement la coupe de façon à ne pas exciser les tissus environnants. Lorsque l'on constate une laxité des parois vaginales, il faut également faire très attention à ne pas les couper. Pour cela, on utilise un rétracteur des parois vaginales. Lorsque la technique est appliquée correctement, les complications de la rade sont rares. Une hémorragie primaire survient chez environ 2% des patientes. Elle peut être palliée grâce à une fulguration avec une électrode à boule de 5 mm ou une solution de Moncel. Une hémorragie secondaire peut survenir 24 heures après la rade et dans ce cas, il convient d'émettre l'hypothèse d'une infection et de la traiter. Cela peut nécessiter une structure et des tampons de gaz. Des brûlures vaginales peuvent également se produire en raison d'un manque de précaution de la part du prestataire de soins. L'infection ne survient que très rarement, tout comme la sténose cervicale, et il existe un léger risque d'interruption de grossesse consécutive à la rade, mais généralement, avec l'excision en un seul passage, ce risque est pratiquement nul. Les effets secondaires sont également très rares. Dans moins de 2% des cas, on constate des saignements périopératoires. Et certaines patientes peuvent avoir des pertes teintées de sang pendant 2 ou 3 jours. Chez moins de 5% des patientes, on observe des saignements post-opératoires que l'on peut cependant éviter si l'on acquiert une bonne technique. Les risques d'infection sont rares, à condition que l'on prenne des précautions aseptiques. Comme je l'ai dit, les séquelles à long terme de la rade sont très rares. La sténose ne survient que très rarement, tout comme la maladie inflammatoire pelvienne. Le suivi consécutif à la rade consiste à convenir d'une visite de contrôle après un mois pour vérifier que la plaie est cicatrisée et renouveler la visite après un an pour s'assurer de la guérison des lésions. Sur le terrain, ce sont souvent les deux seules visites de contrôle possibles, mais si l'on en a l'opportunité, il convient de renouveler la consultation tous les 2 ou 5 ans pour vérification, mais cela est rarement possible dans les pays en développement. Je vais à présent vous présenter les taux de guérison par cryothérapie dans des cadres concrets, sur le terrain, où ce sont les infirmières qui pratiquent le traitement. Vous pouvez voir qu'à l'occasion d'une étude de population de grande envergure menée en Inde, la cryothérapie seule pratiquée par les infirmières en conditions réelles a permis de guérir 94% des patientes. Le taux de guérison est bien évidemment élevé pour les signes 1, 96%, et n'est plus que de 82% pour les signes de haut grade. La rade a quant à elle permis de guérir 94% des 489 patientes et comme vous pouvez le voir, le taux de guérison des signes 1 est élevé, environ 98%, alors que celui des signes 3 est de 85%. Mais avec la répétition du traitement, plus de 95% des patientes peuvent être guéries. L'objectif de la guérison des signes est de prévenir le cancer invasif. Dans une autre étude conduite en Inde en conditions réelles, les taux de guérison étaient assez élevés. 90% pour la cryothérapie pratiquée par les infirmières et environ 90% aussi pour la rade pratiquée par les médecins. Toutes ces études ont été menées dans des milieux à faibles ressources. Dans des milieux plus aisés, ces taux peuvent augmenter. Comme vous pouvez le voir, dans un échantillon important de patientes traitées en Inde par cryothérapie, que l'on a revu au bout d'un an, les effets secondaires du traitement ont été observés chez seulement 1,5% des 2094 sujets, ce qui est quasiment négligeable. Concrètement, ce sont des traitements qui peuvent être administrés en ambulatoire par des infirmières et des docteurs formés et dont l'innocuité est avérée. Ils sont efficaces et préviennent le cancer invasif chez les patientes correctement sélectionnées, principalement chez les patientes clairement positives à l'IVA en Afrique subsaharienne.